Vous écoutez le Libre Journal de Lumière de l'Espérance, dirigé par Dominique Tassot, assisté d'Apolline, diffusé en direct sur Radio Courtoisie dimanche 25 août 2019 de midi à 13h30 et réalisé par Adrien. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Voilà, bonjour à tous, chers auditeurs, et je suis heureux de vous retrouver pour ce dernier dimanche de la période estivale. Et nous allons aujourd'hui recevoir trois invités. Alors d'abord, je vais prendre dans l'ordre, monsieur Damien Biguini. Alors vous êtes éditeur.
Bonjour aux auditeurs de Radio Courtoisie.
Et vous aviez publié il y a quelques années un livre de Marta Sordi. Alors évidemment, votre spécialité, ce sont les livres d'histoire, vraiment des livres clés, je dirais, de l'histoire, qui sont publiés en Italie et que vous mettez à portée du public français. Et il y avait un livre de Marta Sordi sur les chrétiens et l'Empire romain, qui m'avait tellement intéressé à l'époque que j'en ai fait une recension dans la revue du CEP. Et puis, dans la foulée, vous avez publié un livre qui s'appelle « Les apôtres en Inde ».
C'est ça, oui, deux élèves de Marta Sordi.
Voilà. Et alors, ce livre a eu quand même un impact important, puisqu'il a eu un prix, n'est-ce pas ?
Oui, oui. Alors, donc c'est le livre de Cristiano Donini et Ilaria Ramini, qui sont deux élèves de Marta Sordi. Et c'est leur premier travail, je pense, en tant que jeune chercheur au début des années 2000. Et quand je l'ai traduit, puis publié en 2016, il a reçu un prix par l'Académie des sciences d'Outre-mer, qui récompensait, donc c'était le prix Auguste Pavy, qui récompensait l'ouvrage qu'il considérait être leur livre de l'année, sur leur lecture de l'année sur la zone de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique. Prix que j'avais reçu ex aequo avec le professeur Laurence, qui avait fait un recueil cette année-là sur des études palestiniennes. Donc c'était professeur Laurence qui était au Collège de France, donc pour moi c'était extraordinaire. Cet ex aequo valait plus que même le prix lui-même, puisque ça plaçait vraiment la valeur du prix, la valeur du livre en fait. Et ce livre-là, auquel j'ai donné une forme vraiment différente de la forme italienne, qui était vraiment très chaotique, il avait fallu restructurer le livre. Les auteurs s'étaient prêtés à un beau travail de re-rédaction avec des préfaces spécifiques. Ce livre-là est tombé entre les mains récemment du président de la commission historique de l'Académie des sciences pontificales, qui m'a demandé, après l'avoir lu en français, qui m'a demandé les coordonnées d'un des auteurs pour l'inviter à une série de conférences l'année prochaine sur les thèmes.
Voilà, alors c'est l'Académie pontificale des sciences. Effectivement, oui. Il n'y a pas pour le moment de sciences pontificales, mais il y a des pontifes qui se sont, à partir de Pie X d'ailleurs, qui se sont intéressés suffisamment à la science pour juger utile, malgré la faiblesse du budget du Vatican depuis la perte des États pontificaux, d'entretenir une académie savante qui, il faut le dire, est celle au monde qui comporte le plus grand nombre de prix Nobel. Alors vous me direz, c'est facile, parce que comme on recrute dans le monde entier, c'est facile d'aller piocher à droite. Donc nous allons revenir sur vous, Damien Guigny, mais nous continuons le tour de table et la présentation des deux autres invités. D'abord, monsieur Francis Sanchez, donc vous êtes cosmologue et vous avez enseigné à Paris 11.
Oui, exactement.
Et donc, et vous venez de publier dans la revue, alors là on peut le dire en anglais, Progress in Physics, un article qui s'appelle « Retour au cosmos » et c'est évidemment sur le thème de cet article dont nous allons venir. Et puis j'ai donc en face de moi Madame Oya Artoun. Et alors vous êtes spécialiste en physique nucléaire. Et justement, vous êtes d'origine turque.
Oui.
Alors là, vous allez nous expliquer comment il se fait qu'un spécialiste de physique, parce que c'est quand même assez, la physique nucléaire, c'est quand même assez pointu, assez précis. Et on ne, enfin disons, les petites annonces à Pôle emploi, ça n'est pas la bonne façon, évidemment, de trouver une manière de s'incorporer à la société française. C'est donc, vrai. Comment se fait-il que vous êtes venu en France?
Oui. Alors, je fais des études en physique et mathématiques, et puis une maîtrise en ingénierie nucléaire. Et une doctorat en physique nucléaire à l'Université d'Istanbul.
Alors, la physique nucléaire, au fond, qu'est-ce que c'est?
Oui.
Qu'est-ce que c'est que la physique nucléaire? En quoi est-elle différente de la physique
c'est-à-dire
que tout le monde apprend à l'école?
Dans un atome, il y a un noyau.
Oui.
C'est le nucléus. C'est le physique nucléaire. Il exploite ce noyau.
Ah oui, alors donc les électrons, ça n'est pas dans la physique nucléaire.
Non, électrons, ça fait partie de la physique atomique.
D'accord, donc vous, vous occupez de ce qui est lourd.
Nucléos.
D'accord.
Et j'ai participé à un groupe de recherche à CEA de Saclay. Mais je croyais que dans cette époque, l'avenir de réacteurs nucléaires en Turquie.
Oui.
Mais c'est pour ça que j'ai fait tant d'études sur les réacteurs nucléaires. Mais les Américains ont bloqué car ils voulaient interdire aux pays musulmans d'accéder à une bombe atomique.
D'accord.
Et du coup, je me suis réorientée en optique et astronomie. Et la science ne peut...
Mais alors, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des centrales nucléaires en Turquie?
Non, il n'y a pas de centrales nucléaires en Turquie. Ils ont entendu faire un contrat avec les Russes pour avoir une centrale nucléaire. Mais ça a été bloqué.
C'est
pas
que
encore construit.
D'accord. Alors que le Pakistan, par exemple, a été aidé par la France pour avoir des centrales nucléaires.
Oui, Pakistan, il voulait à tout prix avoir la bombe atomique parce qu'en face de lui, il y avait l'Inde qui avait des bombes atomiques pour équilibrer les forces. Ils ont tout fait. Ils avaient de bons physiciens comme M. Abdussalam, connu mondialement. Et ils ont réussi à faire bombe atomique aussi.
Ouais. Parce que là, vous dites que les Pakistanais avaient de bons physiciens.
Ouais.
Il faut un niveau scientifique très, très poussé pour pouvoir faire la bombe
atomique.
Oui,
parce que niveau très poussé, parce que M. Abdussalam, il travaillait aux États-Unis. Il était très connu aux États-Unis. Il avait participé à la construction de bombes atomiques. Voilà.
Ah oui, donc vous avez travaillé à Saclay et puis vous êtes intéressé à l'optique.
Oui, j'ai enseigné dans l'université de Paris 8 et Paris 11, optique géométrique et laser, sécurité laser. Et après, j'ai fait pas mal de formations dans les. Comme IBM, d'autres. Thompson, certaines boîtes, voilà.
Voilà, donc vous allez vous réinterroger par la suite, surtout quand on va parler des questions.
Je voulais dire quand même que les sciences peuvent parler que univers observable.
Oui.
C'est-à-dire, mais comment pardon. Les cosmos peuvent être beaucoup plus grands et contenir d'autres univers aussi. D'autres types d'univers. Cependant, cet article montre un accord entre les constantes physiques et les mathématiques.
C'est ça. Donc, oui. Autrement dit, c'est un article, presque un article fondateur.
Voilà.
Comme je vois, véritablement.
Et il atteint la précision de milliardième. Et c'est une probabilité de 400 fois plus petite que de gagner de l'auto avec une seule ligne.
C'est ça. Bon, écoutez, on reviendra, oui. De toute façon, on va revenir sur les questions de cosmologie.
Voilà, ce que je veux dire, univers est quand même très particulier.
Ce qui va être le gros morceau de cette émission. Et nous, maintenant, nous revenons peut-être d'abord à Damien Biguini et aux apôtres en Inde, mais peut-être une annonce, un auditeur demande une...
Voilà, donc un auditeur nous demande quelles sont les coordonnées du CEP, la revue Le CEP. Donc, elle est consultable en ligne pour les anciens numéros sur le site le-cep.org. Et vous pouvez aussi écrire au CEP SIDEX 811, 16 rue d'Auxerre, 89 460.
C'est ça. Donc évidemment, dans un numéro de... qui date d'une bonne année. Enfin, il y a une recension du livre de Meurtha Sordi sur les premiers chrétiens et Rome. Et puis, dans le dernier numéro, justement, Francis Sanchez, ici présent, a fait un article critique sur la science moderne, mais nous en parlerons tout à l'heure. Mais je voudrais avant que l'on... Damien Guidi, vous nous expliquiez... l'importance, finalement, pour le christianisme de cette présence des apôtres en Inde. Parce que, déjà, on a l'habitude d'imaginer le christianisme comme une religion méditerranéenne, comme centrée sur, évidemment, la Palestine et l'Italie. Vous nous montrez que ce n'est pas du tout le cas, que dès le premier siècle, il y a eu une extension considérable.
Pour commencer, c'est pas moi qui monte, ce sont les deux auteurs. Même si j'étais justement la question de la commission, de l'Académie pontificale, c'était vraiment pour moi la manière de la satisfaction en tant qu'éditeur d'avoir amené en langue française un livre d'une telle valeur. Parce que même si. Parce que ce qu'il change pour. En fait, ce livre change quelque chose pour nous, vraiment, parce qu'on a l'habitude de concevoir les débuts de la chrétienté comme un phénomène méditerranéen, alors que très tôt, c'est comme si on avait été sourd à ce qu'on appelle aujourd'hui les apocryphes sur les missions apostoliques à travers le monde, très tôt, il y a eu des missions au-delà du monde méditerranéen, avec diverses formes, c'est le mot à la mode, d'inculturation du christianisme, qui ont donné lieu à la naissance de très nombreuses chrétientés diverses.
Oui, et des liturgies
diverses. Là, en l'occurrence, sur le cas de l'Inde, c'est ça qui est magnifique, c'est que quand les Portugais sont arrivés en Inde, en 1543, ils ont découvert la liturgie locale, et c'était la liturgie araméenne conservée à l'état quasiment primitif. Ce qui permet de revenir en fait sur la question égyptienne, je sais que ça plaît à M. Sanchez. Le cœur du livre, en fait, c'était le témoignage de Pantène d'Alexandrie qui va à la fin du 1er siècle, à la fin du 2e siècle, au milieu du 2e siècle, raconte qu'il est allé en Inde, invité à la demande de chrétiens qui avaient envoyé une ambassade à son évêque. Son évêque l'avait envoyé en tant que comme savant. Donc Pantène dit à son retour que sur place, il a trouvé des chrétiens qui utilisaient un évangile de Saint Matthieu rédigé en langue hébraïque. et qui l'a ramené...
En langue hébraïque.
En langue hébraïque.
Ça, c'est très intéressant, parce que ça va tout à fait dans le sens des thèses de l'abbé Carmignac, en particulier, sur le fait qu'il y a un original hébreu derrière...
À Matthieu, surtout, en plus. Mais c'est ce que disait Papias de Hierapolis, sur Matthieu, il le dit. Cette notion, enfin, ce témoignage de Pantaine a été sous-estimé. C'est comme s'il n'existait pas, en fait, tout simplement pendant des...
Alors, il était sous-estimé parce qu'il n'était pas connu ou parce qu'il était... Il était en quelle langue? Il était en grec.
Il était en grec, mais il était sous-estimé parce qu'il ne correspondait pas à la conception qu'on avait de l'évangélisation, des cadences et des rythmes de l'évangélisation, et que l'Inde ne pouvait avoir été évangélisée qu'à partir des missions post-constantiniennes par la filière grecque.
Voilà, il y avait un biais cognitif, comme on dit maintenant.
Exactement.
C'est une expression vraiment sympathique, parce que il y a une réalité derrière qui est beaucoup plus qu'un biais. C'est une, peut-être même une fragilité de l'esprit humain, qui est une difficulté d'accéder directement au réel et de toujours se...
Ce qu'on appelle l'idéologie, d'une certaine manière, puisqu'on veut conformer le réel. On ne prend pas en compte le réel tant qu'il ne correspond pas aux idées qu'on avait en tête. Donc, effectivement, c'est de la dissonance, c'est du biais.
Alors, je précise pour les auditeurs que vous êtes docteur en histoire médiévale.
Oui, mais sur des problématiques d'iconographie, de liturgie, l'Antiquité, c'est un plaisir personnel. Évidemment, les études chrétiennes, c'est un biais personnel aussi.
C'est très important parce que, justement, aujourd'hui, nous sommes à une époque de mondialisation. Et je pense qu'il est... Alors, évidemment, la plupart d'entre nous ont reçu le christianisme à travers la tradition latine. Mais il est très important de se rendre compte que le christianisme est un phénomène qui est d'emblée universel, parce qu'il est d'emblée... ce sont des paroles qui s'adressent d'emblée à tous les hommes, comme d'ailleurs les paroles de l'Ancien Testament, et ça c'est très très net dans déjà depuis Abraham, sont destinées à l'ensemble des nations. Même si, dans un premier temps, c'est-à-dire jusqu'à la venue du Messie, il était demandé à Israël de préserver le message, la promesse, etc. Mais il y a un besoin d'universalité, d'universalité de la connaissance, d'universalité de la croyance, et c'est important par les faits historiques de se rendre compte que le christianisme n'est pas la religion de l'Occident.
Non, et c'était un des chapitres du livre de Martha Sordi que vous aviez tant aimé, justement, qui expliquait que comme le christianisme dépassait la séparation entre croyants et non-croyants, ou entre juifs et non-juifs, et comme Rome avait dépassé la distinction entre grecs et barbares, c'était la rencontre de deux universalismes, en fait, de deux manières, puisque Saint Paul pouvait être et juif et romain, et Saint Paul pouvait être, tout en étant juif, était devenu chrétien, et comme les Grecs pouvaient devenir chrétiens, comme tout, puisqu'il n'y avait plus ni juif ni grec. Et tout le monde, au milieu de cette espèce d'énorme écoumène qui allait, qui allait aux portes de l'Inde, en fait, tout simplement.
Il y a une formule de Mgr Ingoli. Alors, Mgr Ingoli a été le secrétaire de la congrégation pour qu'on appelait la propagande de la foi, des propagandes de la fidei. Et c'est au milieu du XVIe siècle, hein, c'est même vers... Donc, on avait l'émission qui allait un peu partout. Et il dit la chose suivante, donc s'adressant aux missionnaires... et parlant des peuples qu'ils allaient rencontrer, il dit « Ne cherchez pas à les occidentaliser. Celui qui se convertit doit rester fidèle à sa culture, à son pays. Et simplement, évidemment, il peut y avoir certaines coutumes et donc qu'il faut éradiquer parce qu'elles sont profondément malsaines. » Mais c'est important, enfin, il avait déjà cette idée que le christianisme est une réalité qui est bien plus que simplement occidentale.
Alors, c'est exactement la lecture que je suis en train de faire en ce moment. En ce moment, je suis en train de lire, j'ai sorti le livre à l'instant, c'est le livre d'Alexandre Valignano, qui était père jésuite pour le Japon, et qui a laissé un sumario, c'est-à-dire un résumé de méthodes d'évangélisation du Japon. C'est une relation missionnaire, en fait. Et c'est exactement ce qu'il préconise, c'est d'aller vers l'autre, s'adapter à sa personnalité, à ses coutumes, et de laisser passer sans heurts le message, puisque de toute manière, la vérité du message chrétien fera qu'elle s'adapte des personnalités, des spécificités de chaque peuple, et ça surmontera peu à peu les mauvais biais ou les résistances naturelles, les traits de caractère. Donc sur le Japon, c'est la relation de Valignano, c'est une lecture vers laquelle j'invite les auditeurs à se tourner.
Que vous recommandez. Alors par contre, moi, je vais recommander la lecture des livres que vous éditez. Mmh. Alors pouvez-vous donner à nos auditeurs les coordonnées de votre maison d'édition est-ce qu'on va sur un site
Alors on peut aller commander sur editionsertamen.fr avec un S à édition en un seul mot. Mais le mieux, c'est... parce que c'est une nécessité aussi pour la réalité économique du livre, c'est de demander les titres qui sont intéressants à son libraire. Et en général, les libraires arrivent à procurer tout très très vite, autant que la grande boutique qu'il ne faut pas nommer.
Voilà, et puis il n'y a pas de prêt de port comme avec les plateformes Internet. Et les titres qui peuvent intéresser nos auditeurs,
Il y avait Les chrétiens et l'Empire romain de Martha Sordi. Il y avait exactement ce dont on vient de parler, donc Les apôtres en Inde dans la patristique et la littérature sanscrite. Depuis février, Ambroise, Rome et Milan, 384-395, la naissance de l'Empire romain chrétien et la fin du paganisme politique.
Effectivement, personnage considérable. Je vous félicite d'avoir abordé...
C'est Martha
Sordi, mais je veux dire, il y a vraiment beaucoup... Je pense que c'est un personnage qui peut même être inspirateur pour notre époque. Non ?
Sûrement, à tel point que c'est le sujet d'un cours au Collège de France, Ambroise. Et c'est en fait, Ambroise a une personnalité qui revient à périodes régulières dans la doctrine chrétienne et surtout dans la manière de... C'est un personnage de réforme et de restauration. Et régulièrement, le christianisme ressuscite la figure d'Ambroise, si on peut se permettre de... Pour repenser la manière de convertir les individus. Pour la période que j'ai étudiée en tant que chercheur, étudiant-chercheur, la personne de Charles Borromée, qui est le fondateur du christianisme moderne, en fait, du catholicisme moderne, qui est le créateur de la contre-réforme et de la chrétienté qui va naître... au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, qui est le fondateur, l'inventeur des séminaires, donc de la manière de produire les clercs, il se pense, dès le départ, comme un nouvel Ambroise, et réfléchit à ce que doit être le fidèle, ce que doit être le pasteur. Et donc, la figure d'Ambroise revient régulièrement à travers les siècles.
Oui, parce que je pense que un des drames de la société actuelle, c'est la laïcisation poussée à l'extrême, et la personne... d'Ambroise, qui était évidemment à la fois un homme de la cité, un homme d'État, un préfet, depuis son plus jeune âge, et évidemment un grand pasteur, un grand théologien. Donc cette personnage fait éclater évidemment les schémas simplistes sur la séparation de la science, et en particulier la séparation de la science et de la foi, ce qui fait que je me tourne maintenant vers Francis Sanchez pour parler de... point de départ, si on veut, cet article qui vient de sortir, qui s'appelle « Retour au cosmos ». Cet article, si pour les auditeurs qui voudraient aller au texte lui-même, comment fait-on
pour bonjour à tout le monde. On peut le trouver en ligne dans le titre « Progrès ». Alors, je parle en anglais parce qu'on a été obligé de publier en anglais toujours. Il y a une domination anglo-saxonne terrible sur les sciences, ce qui explique d'ailleurs beaucoup de choses. Mais bon, on va y revenir. Donc, c'est le journal Progress in Physics, et qui vient de sortir en juillet dernier. et il est accessible sur l'Internet. Donc,
voilà, donc on fait, voilà. On fait Progress in Physics, voilà. Sans chaise.
Voilà. Et le titre en anglais, c'est Back to Cosmos. Ah,
voilà. Retour au cosmos. Alors, en quoi est-ce novateur de revenir au cosmos? Le cosmos, c'est un des concepts permanents de l'humanité depuis la plus haute antiquité.
Précisément. Alors,
ce qui me plaît toujours dans le mot cosmos, c'est que ça veut dire, il y a l'idée de beauté. Oui, vous savez que les cosmétiques, là, nos auditrices voient tout de suite beaucoup mieux peut-être ce que je veux dire, mais il y a cette idée que l'univers est une totalité, mais que c'est une totalité et c'est beau. Et attendez,
ce qui s'est passé, c'est à la période des Lumières, le concept de cosmos a été éradiqué.
Oui.
Volontairement il y aurait des études historiens à faire. Comme M. Damien pourrait éventuellement regarder ça. Il a été évacué. Le concept de cosmos, par exemple, il y a des philosophes qui sont très clairs sur ce point-là, qui disent le cosmos est hors du champ de l'investigation humaine. En particulier, le philosophe Kant. Mm-hmm. Voilà. Même Kant avait quand même une certaine vision intéressante sur l'univers, parce qu'il avait deviné que les nébuleuses étaient des galaxies lointaines, avant les physiciens. Mmh. Mais il n'a pas été plus loin, parce que dans sa critique de la raison pure, il a été obligé de conclure qu'on ne perdrait jamais à comprendre quoi que ce soit sur une entité comme le cosmos.
Mais alors, justement, dans l'esprit du grand public, la physique, c'est... c'est la science dure par excellence, tout est certain, tout a été calculé, tout est mesurable, etc. Et quand on vous lit, on a le sentiment que la physique est dans la panade la plus complète, et pas depuis l'année dernière, depuis longtemps. Alors, est-ce que vous pourriez justement retracer un petit peu les étapes de cette déconfiture réelle, évidemment masquée par une situation idéologique fantastique de la physique, qui est la reine des sciences, qui est la science dure par excellence.
Oui, mais vous avez insisté sur le concept de beauté, ce qui est fondamental. Mais il y a aussi un autre concept, c'est le concept de simplicité, qui a été complètement aussi évacué par la physique actuelle, qui s'est polarisée sur des formalismes mathématiques très compliqués, comme par exemple la relativité générale, qui est vraiment une théorie mathématique très compliquée, qui fonctionne, s'il faut reconnaître que quand on a son GPS, on est content que ça marche. Mmh. Mais
c'est pas parce qu'on utilise des équations avec une formule en racine de 1 moins V2 sur C2 que ça prouve la vérité de la théorie
derrière. Non, c'est pas ça. Non,
c'est un formalisme.
Non, mais le problème, c'est que ces équations sont des équations différentielles. Or, Poincaré avait précisé, il ne faut pas utiliser d'équations différentielles en cosmologie. Pourquoi ? Parce que quand on traite d'équations différentielles, il y a toujours des conditions aux limites, des conditions particulières qu'il faut rajouter à la main. Et c'est là-dessus que bloque actuellement la cosmologie moderne.
Alors justement, comment se fait-il que vous êtes venu à la cosmologie alors que votre formation initiale, donc vous étiez sorti major de l'école d'optique de Paris, donc c'est l'optique qui était votre point faible. Vous êtes spécialisé dans l'holographie, dans les lasers. Vous avez enseigné les lasers, je crois. Alors, peut-être c'est plutôt à vous de le dire, mais...
Oui, je me suis occupé de la formation permanente des ingénieurs de CEA et même du personnel, parce que j'avais dit, je ne fais pas de distinction entre les ingénieurs de haut niveau et les techniciens. Pour moi, le niveau est tellement... Les textes de base sont tellement compliqués que personne, en fait, il n'y a pas de bon livre sur les lasers, je peux vous dire. Les gens, non, ils ne comprennent pas ce qui se passe.
Alors, on s'en sert.
On s'en sert, mais on comprend pas vraiment ce qui se passe.
Et alors, vous comprenez?
Disons que, oui, parce qu'à force d'enseigner, j'arrivais à donner ça de manière que ça devient à peu près compréhensible. Mais disons que ce qui s'est passé, c'est que, vous voyez, c'est que les équations différentielles, comme on les a appliquées en cosmologie, on s'est embarqué dans un modèle qui maintenant est en pleine déconfiture. Ils reconnaissent actuellement, les cosmologues actuels reconnaissent qu'ils sont dans une impasse. En particulier avec cette histoire de l'énergie noire, hein, dont je peux vous expliquer
oui,
comment
c'est venu. Bien sûr, on va en parler.
Mais
oui.
Disons qu'en résumé, 95% du contenu de l'univers échappe totalement à notre compréhension actuelle.
Alors ça, c'est à condition d'appliquer les théories habituelles sur l'univers.
Dans le cadre des théories habituelles.
En particulier la mécanique newtonienne, on l'applique quand même toujours.
Ah oui, alors donc, oui, alors, il y a des lois. Alors ce qui subsiste, c'est la simplicité. Et la simplicité, par exemple, de la troisième loi de Kepler est magnifique.
Alors rappelez un petit peu.
C'est T2 égale L cube. T étant la période de révolution d'une planète, et L, le demi-grand axe. Or ça, c'est l'équation, si vous la considérez en nombre entier, c'est l'équation diophantienne la plus simple qu'on puisse imaginer.
Oui, donc ça, c'est quand même prodigieux de penser qu'une une expression mathématique très simple régit le fonctionnement de l'univers. C'est-à-dire qu'on a... au fond, d'ailleurs, ça, pour moi, c'est ce que j'appelle une des preuves que la vision biblique du monde est au fondement de la science moderne, est pertinente par rapport à la science moderne, parce que, bon, il est dit dans la Bible, Dieu a tout créé avec nombre, poids et mesure, et puis on a le concept de création. Le concept de création, c'est un concept vraiment propre à la tradition hébraïque, dans laquelle l'univers est l'œuvre d'une intelligence supérieure, et d'une intelligence qui a cette particularité que l'homme a été créé, lui, à l'image de Dieu, donc l'intelligence humaine, toute proportion gardée, est capable d'accéder à la pensée divine. Autrement dit, les créatures sont issues de la pensée de Dieu, et nous avons, nous, dans une certaine mesure, un accès à la vérité sur les créatures. Donc, quand on dit, il y a une pensée qui est vraie. Et dans, les équations, ça peut être très compliqué, mais les nombres entiers, ça, tout le monde sait ce que c'est que les nombres entiers. Alors, est-ce que les nombres entiers, Madame Artoun, est-ce que les nombres entiers, y compris dans la physique nucléaire, c'est pertinent?
Oui, la relation numérique le plus simple. On voit dans les lois de Kepler, qui décrit des orbites dans les planètes, des orbites des planètes, et aussi dans les orbites atomiques. Ça marche aussi bien astrophysique que dans la microphysique aussi.
Et ça, c'est le fin du chemin, parce que c'est vrai que Newton, par exemple, ne voulait pas publier les Principia. Vous savez que c'est Halley qui a payé l'imprimeur et qui a tanné Newton pour qu'il rédige son livre, parce que Newton avait le sentiment d'avoir découvert, de cette façon, la loi du macrocosme. Mais tant qu'il n'aurait pas découvert la loi du microcosme, alors il faisait expérience d'alchimie sur expérience d'alchimie, il passait toutes ses nuits au fourneau pendant aux périodes des équinoxes. C'est, la vie de Newton n'est pas du tout la vie du savant moderne qu'on imagine en blouse blanche dans son laboratoire. Et donc Newton estimait que tant qu'il n'aurait pas découvert la loi du microcosme, ça valait pas le coup de publier. Alors là, on est vraiment à l'opposé du savant moderne qui est pressé de publier, parce que publish or perish, on peut le dire en anglais parce que c'est vraiment sous cette forme que ça se diffuse. Alors que, au contraire, pour Newton attendait d'avoir ce qui peut expliquer d'ailleurs. Alors ça, j'avais lu ça il y a quelques années. Il y a un étudiant anglais qui a fait son master sur les erreurs de calcul dans les Principia de Newton. Alors ça, c'est intéressant. Ça veut dire que pendant 3 siècles, personne n'a lu le crayon à la main de façon critique, les Principia de Newton, qui est un texte tellement important que Voltaire, qui en voyait tout l'intérêt pour idéologique, avait demandé à sa compagne, la marquise du Châtelet, de traduire en français les Principia de Newton. Puisque, évidemment, au XVIIIe siècle, on arrive à un moment où beaucoup de gens cultivés ne savent plus assez le latin pour lire les Principia dans le texte. Et c'est le français qui, à l'époque, était la langue savante, la langue véhiculaire, la langue des salons, la langue urmande. Donc, c'est en... C'est en, avec le, par le biais de la traduction de Newton en français qu'on a eu une diffusion des idées qui sont derrière les Principia. Alors, revenez à...
Et je voulais revenir à mathématiques parce qu'il y a une série de Mersenne de type 2 puissance n moins 1.
Oui.
Qui part de toi, à partir de toi.
Et oui, depuis, et ah oui, bon, ça, quand n égale 2, donc...
Parce
2...
que toi, il est le plus proche de base de calcul naturel, E.
Oui.
Oui. C'est-à-dire logarithme naturel. Dans cette série, selon la théorie de Kilmister de Cambridge, il n'y a que 4 termes. Seulement 4 termes. 3, 7, 127 et 2 puissance 127 moins 1. Mmh. Et qui est énorme. Quatrième terme, c'est énorme.
Oui, évidemment. 2
le dernier
27,
nombre
c'est forcément
voilà,
gigantesque.
Est très spécial car c'est le plus grand nombre premier qu'on a constaté sans ordinateur. Et il donne le rayon d'univers avec une précision de 0,6% avec comme unité de longueur d'onde électron.
Alors ça, c'est, ça veut dire qu'un simple calcul peut donner des indications pertinentes sur la réalité matérielle. Alors ça c'est prodigieux, parce que ça veut dire que les maths et la physique, au fond, c'est la même chose.
Enfin, ce n'est pas un simple calcul, c'est le nombre le plus célèbre de l'histoire des mathématiques. 2 puissance 127 moins 1. Il est resté le plus grand nombre premier connu pendant 45 ans dans l'histoire des mathématiques. Bon, maintenant, on en connaît d'autres avec les ordinateurs, parce qu'ils ont... Mais c'est le seul nombre dont on peut démontrer à la main qu'il est premier. Et voilà. Il se trouve que ce nombre donne le rayon de l'univers.
Et le rayon de l'univers est constant.
Voilà. Alors, justement, on a parlé de 127, là. Alors, est-ce que ce nombre a d'autres applications ?
Cette série, alors oui, la fameuse série que Mme Hartung vient de rappeler, a d'autres propriétés extraordinaires. C'est que si on fait la somme des premiers termes, 3 plus 7... on obtient la tétraptis des Égyptiens, et de Pythagore a récupéré en Égypte. Donc le nombre sacré de Pythagore...
Attendez, j'ai 3 plus 7,
3 plus 7 ça fait 10. 10, 10 c'est la fameuse tétractis de Pythagore.
Alors tétractis, on sent...
Oui, parce que c'est la somme des 4 premiers termes.
Des
4
premiers nombres, d'accord.
Ouais, ça fait un triangle. Mais bon, c'est un peu le symbole de beaucoup de sectes et tout ça, mais en fait, c'est pas ça qui compte. C'est parce que le 1 n'est pas un nombre.
Oui.
Le 1, c'est le contraire d'un nombre. Si vous êtes tout seul, vous n'allez pas dire « je suis nombreux ». Et les anciens, ils tenaient compte de ça.
Oui, donc c'est l'unité, l'unicité.
L'unicité qui est... Alors, c'était inscrit dans le fronton de l'école de Pythagore. Le 1 est l'unité, la racine de tous les autres nombres. Donc le 1, c'est vraiment spécial.
Ouais, et les nombres commencent à 2.
Oui. Voilà.
En un sens, oui.
Bon, on le sait en informatique, la base la plus simple. Bon, Mme Hartung a rappelé que la base optimale, c'était 3, mais les techniques actuelles ne permettent pas de... Les ordinateurs futurs utiliseront la base 3. Mais les techniques actuelles, on est toujours à la base 2. On perd beaucoup par rapport à la base 3. Ah oui.
Alors, revenons au... revenons à votre article, parce que pourquoi retour au cosmos, ça veut dire qu'on n'était plus dans le cosmos.
Oui, voilà,
le mot cosmos a été oublié. Évidemment, on pouvait l'utiliser.
Le mot cosmos a été complètement oublié. Ce que les gens ont fait, c'est du chaos. Actuellement, les théories actuelles, on vous définit l'univers visible comme un ensemble de particules en interaction. Ah, c'est écrit noir sur blanc dans les manuels scolaires. Hein. Définition de l'univers, un ensemble de particules en interaction. Débrouillez-vous avec ça. Alors, si ça fait des ensembles plus complexes par des phénomènes d'émergence incompréhensibles, on ne peut pas comprendre ce que c'est que la vie. C'est-à-dire, on se coupe, avec une telle définition, on se coupe de la biologie, et c'est ce qui se passe malheureusement. C'est que si on a constaté que les mathématiques s'appliquaient très bien à la physique... On a aussi constaté que les mathématiques sont d'une invraisemblable inefficacité en biologie. Voilà. Donc, autrement dit, cette histoire d'avoir éliminé le cosmos d'entrée, eh bien, ça a fait éclater toutes les disciplines, y compris la philosophie. C'est-à-dire que la philosophie s'est séparée justement de la physique, des sciences dures, soi-disant, à cause de ça. Alors que la cosmologie est le point commun central entre philosophie et science.
Ah ben c'est sûr qu'il y a des gens qui s'imaginent qu'en en réalité, l'univers, c'est des particules qui vont dans tous les sens. Voilà. Et, alors que quand là, nous sommes autour d'une table, quand je touche la table, je touche quelque chose. Donc pour moi, le réel, ce sont les corps. Et les particules, c'est une invention abstraite. Alors évidemment, c'est une invention ancienne, parce qu'il y avait Épicure, la théorie atomique est une théorie qui n'a pas attendu la physique nucléaire de Madame Hartoun pour émerger. Mais là, il y a une divergence profonde entre la façon dont les physiciens se représentent l'univers et l'univers réel, parce que je rappelle quand même que l'univers, c'est pas simplement que des particules qui se baladent, c'est même pas seulement que des corps matériels qui se promènent, mais c'est un endroit dans lequel il y a de l'esprit, il y a du sentiment, et une toute cosmologie, toute vraie, doit permettre de faire place à tout ce qui existe dans l'univers, y compris tout ce qui est propre à l'activité humaine. Alors ça me fait penser à une formule d'Eddington, je vais vous demander ce que vous pensez d'Eddington. Alors Eddington, donc, c'est un physicien anglais première moitié du XXe siècle, hein, c'est ça. Et alors il disait, alors lui avait conscience des difficultés de la physique moderne, il dit un grand progrès sera fait en physique lorsqu'on arrivera à rendre la physique compatible avec le sens commun.
Et c'est exactement ce qui se passe. Notre article que nous avons fait avec une dizaine de collègues, c'est exactement ce que nous disons. Nous disons qu'il faut revenir à la simplicité du sens commun. Alors, je vais donner par exemple des exemples en ce qui concerne les grands nombres. Eddington avait observé que les grands nombres qui apparaissent en cosmologie ont des relations directes avec les grands nombres qui apparaissent en microphysique.
D'accord. Donc ça, on dit à Newton, le macrocosme et le microcosme.
Oui. Eddington... il y avait quand même d'autres physiciens avant lui, mais Eddington, il a étudié ça de très près, et ainsi que Dirac. C'est Dirac a appelé ça le problème des grands nombres. Mais attention, ce n'est un problème que pour les tenants d'un univers évolutionniste, c'est-à-dire les tenants du Big Bang. Mmh. Il y a une autre école. Une école concurrente, c'est dit qu'ils sont les tenants de la permanence du cosmos.
Alors justement, à propos du Big Bang, il me semble que vous avez dit un jour que finalement, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ait transformé en preuve du Big Bang une radiation qui, en réalité, prouve le contraire.
Oui,
alors
c'est très fort.
Est-ce que vous pouvez expliquer ça
bien. Oui, mais attendez, il faut d'abord que j'explique bien cette histoire de grand nombre, parce que on va y arriver à cette histoire. Oui, Eddington a fait une petite théorie très simple, accessible à tout le monde, avec un petit raisonnement de physique statistique, et il a calculé le rayon véritable de l'univers, qu'on définit par la fuite des galaxies. C'est-à-dire que quand les galaxies, quand on les regarde de plus en plus loin, on a un décalage Doppler, c'est un pourcentage de déviation des spectres optiques, et après ça passe dans l'infrarouge, mais qui est proportionnel à la distance. Donc si on extrapole cette relation jusqu'à 100%, ça définit un rayon de fuite des galaxies. Et Eddington a calculé très exactement ces rayons de fuite de galaxies qui correspond, comme Madame Hartoun le disait, à 0,6% au fameux nombre central des mathématiques.
Ce qui est encore une confirmation du fait que l'univers est fait selon des nombres.
Oui, alors donc, l'article que nous avons publié récemment donc définit, grâce à cet axe que nous avons établi, les connexions entre la microphysique et macrophysique, établit un grand cosmos qu'on désigne ainsi pour le distinguer du multivers. Et la différence avec le multivers, certes, est officiel, mais il est inobservable. Alors que le grand cosmos est observable par le rayonnement thermique de fond.
Voilà, alors, nous arrivons à ce rayonnement thermique de fond.
Alors, ce fameux rayonnement thermique de fond a été présenté comme une preuve du Big Bang.
Alors donc ça, c'est Penzias et Wilson en 1965. Voilà. Donc c'était, alors, le lendemain dans la presse entière.
Oui, voilà. Alors le New York Times, en première page, le Big Bang est confirmé. Alors donc les médias se sont mêlés de l'affaire et ont carrément parti pris pour le... Ils ont pris parti pour la thèse du Big Bang. Et, bon,
c'est devenu... Alors, en quoi cette preuve apparente, en réalité,
C'était complètement faux.
Pourquoi ?
Puisque, après, on a vérifié après, on envoyait un satellite Kobe, on a vérifié que la répartition spectrale est exactement celle d'un corps à l'équilibre thermique.
D'accord, oui.
Et on ne sait pas faire dans un labo... On ne sait pas faire un équilibre thermique aussi bon. Hein. Mmh. Une courbe magnifique, spectrale. Alors, bon, les gens se sont enthousiasmés là-dessus, mais...
Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire, mais attention, il faut être logique. Un équilibre thermique, il n'y a rien de plus opposé d'un équilibre thermique qu'une explosion. Alors, c'est tellement vrai, ce que je dis, là.
Oui, donc autrement dit, au fond, c'était une preuve du cosmos.
Oui, c'était une preuve du cosmos.
Ça veut dire harmonie.
Preuve de cosmos permanent, en équilibre thermique, avec un multivers qui lui envoie des informations. Et d'ailleurs, un grand cosmos.
Justement, je crois que vous n'êtes pas d'accord avec la notion de multivers. Alors,
non.
Alors, pourquoi est-ce que vous... Alors, pourtant, souvent les gens, alors on parle du principe anthropique.
Ouais, voilà.
Alors principe anthropique, moi ça me plaît beaucoup parce que ça veut dire que l'homme, c'est tout à fait en première lecture conforme à la vision biblique du monde où justement l'homme est au cœur de la création puisque c'est l'être qui dans cette création est voué à un rôle particulier par la conscience, par l'intelligence, par son affectivité. Donc le fait que de voir des physiciens qui disent mais finalement le réglage des constantes de l'univers est tellement fin que seulement comme ça la vie est possible, ça me plaît beaucoup. Pourquoi
oui,
est-ce
bien
que ça
sûr. Oui, ça réhumanise un petit peu la science qui s'est fortement déshumanisée justement à cause de ça. Hein. Donc c'est vrai que ça attire beaucoup de gens, mais il faut faire attention quand même. Quand il a été utilisé, il a été utilisé justement contre les arguments d'Eddington. On a fabriqué tout un scénario de Big Bang en disant que pour fabriquer du carbone, il fallait que des étoiles disparaissent en supernova et que le carbone se forme. Donc, on a fait un scénario, on a établi tout un scénario à partir du Big Bang pour raconter l'histoire du carbone propre à constituer les molécules vitales. Donc Et alors c'est un argument qui à l'ordre de grandeur près. C'est-à-dire on ne peut pas comparer cet argument avec l'argument que soulevait Mme Hartoun. C'est que on a une corrélation à 0,6% qui s'établit. Donc, alors pourquoi? Alors maintenant la question importante, c'est pourquoi Eddington n'a pas été écouté? Parce qu'il s'est trouvé que les premiers observateurs de la récession galactique, qui étaient Lemaître et Hubble, se sont trompés d'un facteur 10 à peu près. Et pourquoi ils se sont trompés d'un facteur 10 dans le rayon de l'univers? C'est parce qu'ils ont considéré des galaxies du groupe local qui ne participent pas à l'expansion. Ça, personne ne le signale, ça. Le groupe local ne participe. Donc il n'y a pas une expansion de l'espace.
Ça veut dire que l'expansion est une déduction qu'on fait en interprétant en interprétant le décalage comme un effet Doppler.
Mais c'est correct. Non, mais ça c'est correct, mais à longue
c'est
distance.
Une option.
Non, ça se confirme parce que pour des raisons de logique. Il est logique que les galaxies se séparent de manière à faire de la place aux bébés galaxies. Et il y a certaines observations qui vont dans ce sens-là, en particulier par un observateur d'origine allemande, Alton Arp.
Ah oui, oui.
Mais il a été remercié vigoureusement par les Américains, parce que comme les observations... Alors c'est ça qui est très important. Les observations qui ne collent pas avec le dogme dominant sont éliminés.
Alors, en l'occurrence, les observations de Harpe qui ne collaient pas, si j'ai bien compris, c'était en particulier les ponts de matière. Ouais. C'est-à-dire, il observait, alors, d'une part, alors, c'est un spécialiste des quasars, il observait des quasars qui ne fonctionnaient pas avec le décalage vers le rouge, c'est-à-dire qu'on avait des quasars proches qui étaient censés aller plus vite que des quasars éloignés. Et puis il observait des ponts de matière entre galaxies. Voilà. Alors, et entre galaxies ayant des décalages différents. Donc tout ça est évidemment incompatible avec le Big Bang. Alors d'ailleurs, finalement, pourquoi est-ce qu'on dit Big Bang? Quelle est l'origine du mot?
C'est très, très intéressant, puisque Eddington a eu un successeur qui s'appelait Fred Hoyle. Qui lui donc a favorisé
un successeur, c'est-à-dire à l'observatoire.
Non, il a eu au niveau conceptuel. Oui. Au niveau conceptuel, disons que le premier qui a dit la vérité, Arthur Eddington, a été éliminé. C'était le meilleur physicien de l'époque. On le savait dans les deux grands domaines physique quantique et relativité générale. C'était le plus grand spécialiste. On a déclaré qu'il était sénile. Il a voulu relier le microcosme avec le macrocosme. C'est le sujet actuel, mais à l'époque, c'était pratiquement interdit. Donc, il avait fait le bon calcul, que j'ai vérifié, moi, d'une manière indépendante, par ailleurs, par une deuxième méthode et même une troisième méthode. On retrouve toujours le même rayon, mais il a été, le premier qui dit la vérité a été exécuté.
Alors, ça a été interdit parce que c'était... Alors, vous voulez dire qu'il y a des processus sociologiques qui perturbe le fonctionnement de la recherche scientifique.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Alors, il me semble que vous avez publié il y a quelques années dans le Nouvel Observateur un article à ce sujet. Est-ce que vous pourriez
dire plus? Mais quand j'ai voulu publier des articles, en particulier à l'Académie des sciences, j'ai reçu des rapports anonymes, non datés, non signés, du genre « le Big Bang est avéré ». Alors, ce qui est très important, c'est de constater que c'est le seul domaine, la science est le seul domaine où on se permet de faire des expertises anonymes. Dans aucun tribunal du monde, on ne tolérerait ça. Déjà, quand l'expert signe, on a des doutes, tradition.
Il faut expliquer à ce moment-là qui sont ces experts, c'est-à-dire comment fonctionne c'est pour le fonctionnement des publications.
Ah oui, c'est catastrophique.
Donc c'était ça l'objet de votre article. Donc,
c'est le système américain. C'est le système américain, les Américains ont voulu imposer leur système qui consistait à dire la recherche ne peut se développer que par des groupes bien constitués, avec une hiérarchie très précise. Et dans des thèmes de recherche qui souvent viennent de haut. C'est-à-dire que la liberté du chercheur a été éliminée. Individuellement. Partant de là, tout individu qui prétend faire un progrès dans les sciences, il est systématiquement censuré. Alors, c'est pas étonnant qu'on arrive maintenant à une situation extraordinairement compliquée. On peut plus, ça ne peut plus durer comme ça. Je l'avais signalé, donc, dans un article au Nouvel Observateur, parce qu'il y a un journaliste qui s'étonnait qu'il y ait eu un rapport de l'Académie non daté, non signé, contre le professeur Serralini, qui accusait les OGM. Cette histoire repart en ce moment. Il y a plein d'anomalies sociétales en sciences. Mais ce que j'apporte dans cet article avec mes collègues, c'est que même dans la science la plus dure, la soi-disant la plus rigoureuse, le fonctionnement est catastrophique.
Alors ça m'amuse beaucoup parce que je viens d'acheter, pour ma fille, le manuel de sciences de première selon les nouveaux programmes. Et alors on vous explique comment on accède à la vérité. Alors il y a des degrés de vérité et puis le summum de la vérité, le degré indépassable, c'est le consensus des experts. Alors, justement, vous nous expliquez que le consensus des experts est ce qui empêche la progression vers la vérité. Donc, c'est vraiment intéressant parce que, dans mon esprit, la science, c'était quand même un domaine relativement objectif où l'idéologie n'allait quand même pas se mêler constamment. Et on a, là, dans ce manuel de première, alors d'ailleurs, j'invite ceux qui veulent, bon, c'est le manuel Attier, pour là, en plus, c'est les sciences, alors c'est pour tout le monde, c'est aussi bien les littéraires que les scientifiques, alors c'est complètement encyclopédique, là, je pense que si un élève était capable d'assimiler tout ce qu'il y a dans ce manuel, chapeau, mais je crois que c'est absolument impossible, ce qui veut dire que on habitue les gens à une connaissance parcellaire, c'est-à-dire à utiliser un manuel, mais qu'ils ne pourront pas assimiler, et donc, dans tous les domaines, justement, à faire confiance aux experts. Alors ça, c'est presque le contraire de la démarche scientifique. Évidemment, ça commence par le doute, on devrait former les gens à, par eux-mêmes, adhérer à une méthode de recherche, adhérer à des vérifications et avoir conscience de leur logique. Je crois que c'est dans 1984, vous savez, le roman de Orwell. Alors, il me semble que le narrateur, à un moment se dit, mais non, l'hélicoptère n'a pas été inventé par le Parti communiste, par le Parti. Et il se souvient que l'hélicoptère existait avant le parti, et c'est la petite lumière qui lui permet de démonter la propagande. Et il se dit, au fond, mais c'est très difficile de s'opposer à la propagande. Alors justement, les sciences, c'était un domaine dans lequel il y avait une formation intellectuelle permettant d'analyser posément, de confronter, d'expérimenter. Et je vois dans ce manuel de première... qu'on est en train d'utiliser les sciences et l'autorité de la science, au contraire, pour formater les gens et pour habituer les gens à abandonner leur autonomie intellectuelle et à faire confiance aux autres.
Oui, alors là, on peut donner un exemple qui est très actuel. C'est la fameuse fable du réchauffement climatique.
Oui.
Ça aussi, c'est l'exemple typé, là, de mainmise sur le... sur la politique, d'une part, et les politiciens, et aussi les médias. Ils sont tous pour cette fameuse fable du réchauffement climatique. Alors, le professeur François Gervais vient de publier un livre qui s'appelle « L'urgence climatique est un leurre ». Et j'ai regardé un peu son ouvrage, c'est très intéressant. Et il explique que parmi les scientifiques, il faut distinguer les professionnels des retraités. Ils n'ont pas du tout la même approche.
Pourquoi ?
Ben parce que les professionnels, si vous êtes jeune chercheur, malheureux, n'allez surtout pas émettre la moindre critique, parce que votre carrière serait mise en danger immédiatement. Donc vous devez suivre le troupeau. Vous voyez, donc il faut moduler donc ce que vous avez dit, monsieur Tassot, il faut moduler, il faut faire confiance aux scientifiques. Aux scientifiques retraités.
Oui, Damien Biguigny, qu'est-ce
que... Oui, bah, c'est exactement ce que dit M. Gervais, c'est que le jeune chercheur, il travaille dans un laboratoire qui reçoit des fonds pour rechercher ce qu'on lui demande de rechercher. Voilà. Et donc, c'est son excellence. Il va chercher ce qu'on lui demande de trouver. Et peu importe ce qu'on lui demande de trouver. Donc on lui demande de chercher du réchauffement, il en trouvera. Mmh. Si on lui demandait de chercher du refroidissement, il en trouvera également.
Mmh. Oui, on trouve, évidemment, on trouve ce qu'on... Un exemple que je peux signaler pour nos auditeurs. Alors, il y aura, je crois que c'est 22, enfin, c'est fin octobre à Mulhouse, une grande conférence sur le thème Bible et sciences. Donc, il y a 8 intervenants et la tête d'affiche, c'est John Sanford, qui est un généticien américain assez connu parce que c'est l'inventeur du canon à gènes. Et donc, il a déposé plein de brevets. Mais il se trouve que John Sanford, d'une part, s'est converti. Donc, il a fait une démarche personnelle de conversion au christianisme. Et il est, dans la foulée, il est devenu anti-évolutionniste. Alors, les frictions avec l'université ont été telles qu'on l'a poussé vers la sortie. Bon, alors, ça ne le gênait pas beaucoup, parce qu'avec tous les brevets qu'il avait déposés, bon, il a évidemment tous les moyens de vivre, et au contraire, de vivre activement et de... Mais enfin, toujours est-il que je constate qu'à ce congrès de Mulhouse vont parler, enfin, évidemment, John Sanford comme tête d'affiche, et puis 7, alors il y a un Suisse et 6 Français, qui sont tous retraités.
C'est-à-dire que les, alors il y a des dizaines de doctorants, doctorats, etc. Dans des thèmes liés à la théorie de l'évolution, que ce soit la paléontologie, la biologie, la génétique, etc. Qui ne croient pas au mythe évolutionniste. Mais à partir du moment où il faut s'exprimer dans une conférence publique, évidemment, ne peuvent s'exprimer effectivement que les retraités. Donc là il y a quand même un malaise profond en science, et c'est alors ça se comprend dans un domaine comme l'évolution, parce que ça touche évidemment très très près aux idéologies politiques, religieuses, etc. Mais c'est quand même navrant de voir que même en physique, eh bien l'idéologie a pris sa part. Peut-être un petit rappel pour nos auditeurs.
Donc, chers auditeurs, vous êtes sur Radio Courtoisie et vous écoutez le libre journal La Lumière de l'Espérance, dirigé aujourd'hui par Dominique Tasso et assisté d'Apolline. Nous recevons M. Damien Biguini, directeur des éditions Certamen. Je rappelle aussi qu'il vient d'éditer dans ses éditions 3 livres. Donc, M. Biguini, pourriez-vous nous dire les 3 livres que...
D'accord. Bon, il y avait « Les chrétiens et l'Empire romain » de Martha Sordi, paru en 2015. « Les apôtres en Inde dans la patristique et la littérature sanscrite » d'Ilaria Ramelli et Cristiano Donini, paru en 2016. Et puis de Martha Sordi, paru en 2019, « Ambroise, Rome et Milan 364-395, naissance de l'Empire romain chrétien et fin du paganisme politique ».
Voilà, nous recevons également M. Francis Sanchez, cosmologue, et Mme Oya Artourne, spécialiste en physique nucléaire. Je rappelle également que vous pouvez consulter la revue du CEP sur le site le-cep.org ou bien par téléphone au 03 86 31 94 36.
Alors évidemment, pour la revue du CEP, ce sont les numéros de plus de 2 ans qui sont évidemment... téléchargeables en ligne, mais les numéros récents, évidemment, doivent être obtenus par abonnement ou bien au numéro, c'est-à-dire qu'on trouve sur le site le sommaire de chaque numéro. Et justement, dans le dernier numéro, il y avait un article de Francis Sanchez, donc c'est l'occasion de le signaler, dont le titre est « La dérive formaliste de la science moderne ». Alors, cet article est très court, mais alors, on avait une sorte... Est-ce que vous pourriez rappeler justement les grandes étapes de parce que c'est presque comment la science s'est fourvoyée?
Oui, ben voilà, par la complication.
À différentes
occasions. La science s'est fourvoyée, on a oublié la simplicité cosmique et on s'est précipité dans la complication. Alors, c'est surtout les mathématiciens formalistes comme David Hilbert. Il a énoncé 23 problèmes au début du siècle. Et le sixième problème, figurez-vous, c'était l'axiomatisation de la physique. C'est-à-dire, pour ce genre de mathématicien, le monde physique, c'est une quantité secondaire qu'on peut traiter en passant comme ça. Donc les mathématiciens ont été trop prétentieux. Ils ont voulu prendre le pouvoir. Et vous connaissez l'exemple malheureux de l'école Bourbaki, où ils ont voulu introduire des mathématiques très abstraites au niveau des jeunes, ça a été une catastrophe.
La théorie des ensembles.
La théorie des ensembles et compagnie. C'est pas étonnant que même maintenant, le classement des jeunes mathématiciens en France est très faible. Hein. On a un gros problème avec ça. Mais là, parce que les mathématiques sont très importantes dans la science. Ça je ne nie pas. Hein. Mais ce sont les mathématiques simples qu'il faut développer, et pas des mathématiques trop formelles où les gens s'en sortent pas. Alors, il faut reconnaître quand même que la théorie des cordes, il y a certains théoriciens qui ont avancé dans ce domaine-là, et nous confirmons quand même la théorie des cordes, parce que nous retrouvons certains nombres de la théorie des cordes dans notre axe topologique, qui rejoint microphysique et macrophysique. Mais la théorie des cordes a été abandonnée. Et les gens sont partis sur des théories encore plus complexes.
Alors, dans les paradoxes... il y a la fameuse expérience d'aspect. Ah. Alors là, c'est parce que vous qui êtes spécialiste en optique, ça serait bien que vous donniez votre commentaire.
Ah oui, alors il s'est passé une chose terrible.
Il faut expliquer ce qu'est l'expérience d'aspect.
Oui, alors donc
d'autant que parce que ça, oui. Il y a un auditeur qui pose une question qui, je pense, se rapporte à cette expérience.
Oui, alors voilà, donc c'est parti un petit peu du prix Nobel d'Einstein en 1922 pour le photon baladeur. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de photons ? Alors, on savait depuis longtemps, et c'est pas Madame Hartoun qui va me contredire, que la lumière se propage par ondes. Mais Einstein, à l'époque, il voulait se faire remarquer. En 1905, il a fait un texte en disant ben, « Ces astroves, il a retrouvé le corpuscule de lumière de Newton, que Newton avait introduit un corpuscule de lumière. » Et il a dit « La lumière se propage à la fois par ondes et par particules. » Et donc ça viole le sens commun. On parlait du sens commun tout à l'heure. Donc ce qu'il fallait dire, et ça a été précisé ensuite par Feynman, et puis par mes cours aussi, je suis arrivé à la même conclusion. Ce qu'il ne faut pas dire, la lumière est une onde et une particule. Il faut dire, la lumière se propage par onde et se réceptionne par particule. Donc le photon n'apparaît qu'à la détection. Mmh. Donc ce n'était pas la peine de lancer des tas d'études, comme a fait Alain Aspect, avec les paradoxes EPR et compagnie. Ça se voyait directement que pour comprendre effectivement le phénomène d'interaction lumière-matière, il fallait faire intervenir toute l'onde qui, à la limite, remplit le cosmos, puisqu'on observe des photons qui viennent par les ondes, qui viennent du fond de l'univers. Donc, autrement dit, pour comprendre la mécanique quantique et tous ces phénomènes, on est obligé de passer par la cosmologie. C'est donc bien ce que je disais tout à l'heure. La cosmologie qu'on avait éradiquée est en fait la base la plus solide de toute la science.
Alors c'est au fond le tout commande la partie.
Voilà.
Un auditeur dit comment peut-on parler de multivers de façon scientifique ? Il n'y a aucune preuve scientifique qui doit être expérimentale ou observationnelle. Répétitive, ces constructions théoriques ne sont donc pas scientifiques.
Exactement, non, c'est parfait.
Ce sont des modèles
galactiques. Oui, le modèle du multivers, c'est complètement hors champ scientifique, puisqu'on n'a pas accès au multivers. Par contre, notre grand cosmos est directement observable par le fond de rayonnement thermique. C'est-à-dire que les fluctuations qui sont étudiées actuellement, on étudie les fluctuations très précisément. Ce sont des révélations qui viennent du grand cosmos. Alors, et ce ne sont pas la trace du Big Bang.
Est-ce que ça a un rapport avec la présence de cutoff dans les... J'ai vu dans les signatures de l'article...
Ah oui, nous avons un... Parmi notre groupe, nous avons un astrophysicien.
Un astrophysicien qui est... Alors, il est russe ou il est ukrainien ?
Mais il est russe, qui habitait en Crimée, et maintenant il est content d'être russe.
Voilà, d'accord.
il est revenu, oui, alors cette histoire d'envahissement... de la Crimée par la Russie aussi, c'est une entourloupe, parce que les gens de Crimée, c'est des Russes. Hein. Ils étaient contents de retrouver. Il m'a dit, je suis content de revenir, je vais mettre un euro dans le machin, at home, il m'avait dit.
Alors justement, Kotov a fait une découverte majeure. Alors, est-ce que vous pouvez rapidement
Kotov a fait plusieurs découvertes très importantes en astrophysique. Et maintenant, avec lui, nous venons de publier un article qui fait l'hypothèse que l'origine du cycle solaire de 11 ans est d'origine cosmique. Alors, et ça, on le prouve comment ? Enfin, c'est Kotov qui l'a prouvé. Je lui avais suggéré cette idée-là, parce que j'avais vu qu'il y avait des relations bizarres. Mais Kotov a montré qu'en étudiant le champ magnétique du Soleil, il y a un brusque saut, et qu'on ne peut pas expliquer par des phénomènes de magnéto-hydrodynamique. C'est donc, ça serait donc le premier
un saut quantique.
Un saut quantique, non. Dans la physique atomique, on sait qu'il y a des sauts quantiques d'énergie. Là, ça serait un saut quantique de champ magnétique qui serait l'une. C'est une première dans l'histoire de la science. Hein. Ça serait le premier phénomène quantique à l'échelle macroscopique.
Ah oui, d'accord. Alors qu'évidemment, on enseigne partout, le quantique,
voilà.
Ça marche.
Alors, c'est complètement idiot aussi. Il y a beaucoup de gens qui disent que la mécanique quantique ne s'applique qu'en microphysique, ce qui est complètement faux, puisque le calcul du rayon d'une étoile, en appliquant le principe d'exclusion, fait intervenir le H-bar quantique. Voilà. Donc la formule du rayon d'une étoile vous signale que si vous faites tendre le nombre d'atomes vers 1, vous retrouvez le rayon de l'univers une fois de plus. Donc on trouve le rayon de l'univers, on le trouve plusieurs fois dans les sciences simples.
Voilà. Donc, c'est
donc
ça.
Il est bien fixe.
Il y a la cosmologie et la simplicité. Les voilà. deux,
et il n'y a pas d'erreur, ce rayon est fixe. Et ça, ma main a coupé. D'ailleurs, nous avons prévu le Big Clash. Le Big Clash va bientôt survenir. C'est qu'il y a des super télescopes qui sont en cours de construction. Ils ont pris du retard pour les fabriquer parce que, comme ils vont se situer au deuxième point de Lagrange, ils ne pourront pas aller faire des réparations.
Le deuxième point de Lagrange, c'est.
Oh ouais, c'est très loin.
C'est très loin, mais c'est par rapport à Pluton.
Par rapport exemple. À la. Non, c'est pas loin de la Terre quand même. Non, Pluton, c'est autre chose. Donc ils ne peuvent pas se tromper, ils ont pris du retard à cause de ça. Mais quand ils vont mettre en route ces télescopes infrarouges, et ils vont pouvoir fouiller le fond de l'univers. Et là, qu'est-ce qu'ils ont prévu? Ben, ils ont prévu, avec le modèle Big Bang, des petites bébés galaxies, mal foutues. Et qu'est-ce qu'ils vont voir? Je vous le donne en mille, un fourmillement terrible de vieilles galaxies. Alors là, il n'y aura plus d'échappatoire. Hein. Parce que, en ce qui concerne le rayonnement thermique de fond, qui contredisait le modèle, ils ont trouvé un échappatoire. Hein.
Oui.
Ce qui était l'inflation. C'est-à-dire, ils ont remplacé le Big Bang une étape en un Big Bang à deux étapes. Vous voyez le manque de sérieux de cette affaire-là.
Ben les scientifiques sont des gens intelligents, donc ils trouvent toujours des parades aux objections.
Mais c'est tellement gros cette affaire d'inflation que même les tenants de l'inflation au départ, comme Steinhardt, qui est un Américain qui avait soutenu ça, il revient maintenant sur ce concept d'inflation. Il y a des doutes aussi qui commencent à s'installer dans le milieu scientifique.
Alors j'ai une auditrice nous dit « Ignorante et ignare comme je le suis, je peux vous dire que je vous écoute avec passion. » Donc ça c'est pour moi, c'est l'hommage le plus fort que l'on puisse dire, parce que c'est malgré tout le problème de la physique moderne dont vous êtes le représentant, c'est que c'est incompréhensible pour le commun des mortels, moi compris. Hein. Il faut des années pour se plonger dedans. C'est ça. Alors c'est ce qui permet justement à l'idéologie de faire un hold-up sur la science. C'est que très peu de gens sont capables de le contester ou de s'en apercevoir. Et puis ceux qui sont pris dans l'opération ont intérêt dans la chose.
Oui, alors justement, en parlant de ça...
Alors attendez, je termine avec cette auditrice qui dit, donc ignorante, je peux vous dire que je vous écoute avec passion. On disait, la science n'est qu'une suite d'erreurs rectifiées. Donc vous voyez, tous les espoirs sont permis. Alors je ne sais qui l'a dit, peut-être pourriez-vous le dire. Et si je comprends bien, l'idéologie étant partout... Nous serons toujours trompés. Voilà, Guibert avait donc bien vu qui avait dit « Le premier qui dit la vérité doit être exécuté. Oui, » Donc c'est intéressant de voir qu'on peut, même si on n'a pas de doctorat en physique nucléaire comme Mme Hartoun, on peut
Donc ce qui change avec cet article pour le grand public, c'est que chacun peut vérifier le calcul du rayon de l'univers. Il suffit de... c'est une petite formule qui mélange trois constantes universelles. Je rappelle que les constantes universelles en physique, c'est vraiment le fondement de la physique. Ce sont des grandeurs qui ne bougent pas ni dans le temps ni dans l'espace. C'est le fondement de la physique. Quand vous mélangez trois de ces constantes, pour les spécialistes, il y a H bar, G et la masse et les masses des particules. Si on utilise H bar, G et la vitesse lumière, on obtient comme longueur la longueur de Planck, qui est toute petite, 10^-35 mètres qu'on attribue soi-disant justement au début de l'univers. Mais si on remplace la vitesse lumière qui est trop lente au niveau cosmique...
Non, je pense que ça, c'est un point important sur lequel il faut revenir. Parce que tout le monde apprend que la vitesse, c'est 300 000 km secondes, indépassable.
Non, mais c'est très lent.
Et vous dites que
c'est très lent. Je ne dis pas, j'affirme, mais je prouve que la vitesse lumière... D'ailleurs, ce qui s'est passé, la première mesure, c'était un étudiant... de Cassini, il était à l'Institut d'astrophysique de Paris, et il a observé les satellites de Jupiter. Il a vu qu'il y avait des décalages, qu'il a attribué justement, il avait raison.
Des décalages entre
c'était pas tout à fait périodique, parce qu'on avançait, on reculait par rapport à Jupiter. Donc, au cours de l'année, il y avait une variation, il a déduit comme ça la vitesse.
C'est-à-dire que la période du satellite autour de Jupiter, mesurée,
c'était pas régulier. Donc, il a déduit une valeur assez correcte de la vitesse lumière. Mais ça prouve que la vitesse lumière est très facilement accessible en astronomie. Quand ils ont envoyé des sondes sur Pluton et compagnie, ils mettaient plusieurs heures pour avoir le signal. La vitesse lumière est une torture à l'échelle de l'univers. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'on l'a considéré, en suivant Einstein d'ailleurs, on l'a considéré comme un élément incontournable de la cosmologie, alors qu'il fallait l'enlever. Mmh. Même Eddington ne l'avait pas vu, hein, parce qu'il faisait C égale 1, alors il n'a pas vu que... On ne voit pas que C égale 1 s'enlève. Et alors, donc...
Donc, il y a des vitesses super-luminiques.
Alors, voilà. Alors, non, attendez, vous n'allez pas trop vite, monsieur Tasso. Non, c'est que si vous combinez le h-bar, qui est le quantum de rotation, le g de Newton, et le produit de masse des trois particules, électrons, protons, neutrons, vous obtenez la moitié du rayon de l'univers. La moitié de la formule d'Eddington, qui est 13,8 milliards d'années-lumière. Or, en cosmologie officielle, ils arrivent à la conclusion que l'âge de l'univers, donc c'est pas un âge, c'est 13,8 précisément milliards d'années. C'est-à-dire que leurs calculs sont bons quelque part, quand même, il y a quelque chose de vrai dans le calcul, mais ils se trompent complètement d'interprétation.
Oui, ils se trompent même d'unité de mesure. Là.
C'est vrai qu'avec le système
sans lequel le temps et l'espace, on mélange tout ça.
Ah oui, tout est mélangé.
Évidemment, on comprend que la confusion.
On s'en sort pas. Ah, oui, donc.
Alors ils ont une question que je vais vous poser. C'est alors on a parlé de la simplicité. Oui. La simplicité pour l'homme moyen, c'est les nombres entiers. Voilà. Et tout à l'heure, on avait évoqué le 127. Oui. Alors, il y a le nombre 137 sur lequel vous avez fait une réflexion intéressante.
Oui, c'est extraordinaire, parce que les corrélations milliardièmes que Mme Hartoun rappelait impliquent directement le 137 comme nombre entier. Et le 137 avait été justifié par Eddington. Simplement avec un raisonnement très simple à partir de matrices 16, 16, etc. C'était le nombre d'éléments indépendants, plus 1. Voilà. Alors, il y a aussi quelque chose que les auditeurs... Si, par exemple, nous avons des auditeurs là qui n'aiment pas manipuler les constantes de la physique, hein, parce qu'il y a des 10 puissances... terrible.
Il y a que des nombres avec des décimales.
Voilà.
On a perdu.
Non, mais c'est des nombres extraordinairement petits ou très grands. Hein, la constante de Planck, c'est 10 puissance moins 34 joules seconde. Les gens ne comprennent pas ce que c'est. Bon, c'est pour les gens qui ne comprennent pas ça, je leur recommande d'aller en Égypte. D'aller à Karnak.
Là, c'est pas très prudent en ce moment.
Oui, mais attendez que ça se calme. Et il faut absolument... Si vous avez la possibilité, c'est d'aller à Karnak, voir le temple d'Amon, et de pénétrer dans la salle hypostyle. Qu'est-ce que vous allez découvrir ?
Des colonnes.
Des colonnes.
Je veux dire que cette salle, évidemment, le toit est parti. Oui. Mais même sans le toit, fait une expression. Moi, j'ai une expression de me sentir écrasé. Parce qu'on a des colonnes massives. On a l'impression que les architectes qui ont construit ce temple voulaient, alors justement, avaient une religion de terreur. Et c'est tout le contraire des cathédrales où on essaye d'avoir une architecture qui s'élance avec des voûtes, etc. Alors revenons aux colonnes.
Non, monsieur Tassot, c'est pas l'impression exacte qu'il faut avoir, puisque clairement la destination de cette salle, c'est qu'il faut compter les colonnes. Oui. Elles sont grosses pour pas que vous puissiez ne pas les compter.
Oui, on est obligé de les voir.
On n'a pas forcément le réflexe de les compter.
Alors, qu'est-ce qui se passe quand on les compte ?
Quand on les compte, on observe évidemment, vraiment ça me paraît évident, qu'on observe 134 colonnes.
Oui, alors ce n'est pas 137.
Oui, mais 137 et 3 plus 7 plus 127.
Oui.
Et 7 plus 127, c'est 134.
Oui.
Et pourquoi l'architecte a mis le 3 de côté ? Mais Mme Hartoun l'avait bien dit, le 3, c'est la base de départ. Et si vous voulez avoir un monument qui est un axe architectural, vous devez, puisque c'est un nombre impair...
Oui, on ne peut pas avoir de...
Donc il faut extraire le 3. Donc le 3, c'est-à-dire que c'est le troisième pylône, c'est entre le deuxième et le troisième pylône que se situe... Parce qu'il y a plusieurs pylônes hein, dans le temple. C'est énorme, le temple.
Oui, c'est des rangées.
Les pylônes, ce sont des grandes portes.
Ah oui, d'accord.
C'est des grandes portes.
Pas les colonnes, oui.
Donc, entre le deuxième et le troisième, vous avez la salle hypostyle avec 134 colonnes. Et dedans, donc, à part cet axe divin, ils appellent ça l'axe divin, vous avez un axe royal. Et sur les côtés, qui sépare en 28 et 33 colonnes.
Oui.
28, alors, c'est rangé par 7. Mmh. Alors, c'est bizarre que c'est rangé par 7, justement, le fameux 7, le deuxième tiers de la série. Oui. Et 28, c'est le deuxième nombre parfait.
Ça veut dire que les Égyptiens, évidemment, avaient le sens que derrière les nombres, il y a un sens et qu'on ne peut pas arbitrairement, ou pour des questions de simples calculs de résistance des matériaux, parce qu'aujourd'hui, c'est ça, on fait des calculs de résistance des matériaux, puis on met le nombre de colonnes minimum pour faire une construction, tandis que là, évidemment, il y avait...
Oui, attendez, il y a 28 d'un côté, 33 de l'autre. 33, c'est le numéro d'ordre du nombre premier 137.
Ah, d'accord.
Il ne faut pas partir du 1, il faut partir du 2. Mmh. Et alors, comme les Égyptiens n'utilisaient comme fraction que des fractions de l'unité, 1 sur 1, 1 sur 2, 1 sur 3, etc., et forcément, ils connaissaient le 137, puisque quand on fait la somme des 5 premiers termes de la série harmonique, on trouve 137 sur 60. Mmh. Donc, le 137, alors ça, on peut reprocher aux mathématiciens, ils n'ont pas vu une simplicité énorme en ce qui concerne le 137 dans la série la plus simple, la série harmonique.
Et 60, qui est encore de nos jours l'unité de mesure du temps.
Ouais,
c'est clair. On a des mesures d'espace régies par le nombre 10, hein, et les décimales, etc. Mais le temps a échappé, malgré la furie révolutionnaire pour le calendrier, le temps a échappé.
Non, mais
vous
ne croyez pas si bien dire, monsieur Tasso.
Oui.
C'est que le 137 figure en toute lettre, si je peux dire, dans la Bible.
Oui. Ah.
C'est que le fils d'une servante égyptienne. Parce que ça
s'appelle
Agar, oui. Son fils, il s'appelait Ismaël. Il serait mort à 137 ans. Mmh. Et son demi-frère, Isaac, lui, serait mort à 180 ans. Donc on retrouve le nombre de Babylone, voilà.
Oui, donc on retrouve 137 et 60.
Donc tout ça, c'est pas du hasard.
Non, mais les nombres dans la Bible ont manifestement un sens important. C'est comme le 153 qui est... Alors, le nombre de poissons de la pêche miraculeuse, donc c'est le nombre de l'Église, c'est le nombre de Je vous salue Marie dans la chapelet, et c'est aussi le nombre triangulaire de 17.
Ah oui, le 53 n'est pas neuf.
Donc c'est un nombre biblique, parce qu'il est dans la Bible, mais c'est un nombre qui, par ailleurs, a des propriétés remarquables du point de vue...
Oui, mais attendez, il y a plus fort que ça.
La numérologie.
Il y a une liaison directe avec le nombre d'or.
Ah oui.
Le nombre d'or. Alors, le nombre d'or a fasciné...
Oui, mais le nombre d'or, bon, c'est pas un nombre entier.
Le nombre d'or, c'est pas un nombre entier, mais, justement, c'est un nombre qui a beaucoup de propriétés liées aux entiers, quand même. Hein. Bon. Donc, en particulier, les gens ont beaucoup recherché comment s'introduit le nombre d'or en musique. Parce que, en peinture, on le dit toujours, souvent, hein. Mais en musique, ils ont cherché vainement, parce que, justement, c'est le nombre le plus irrationnel possible. Alors... Kotov l'a trouvé, il y a un certain mathématicien qui l'a trouvé dans la loi de répartition des planètes dans le système solaire, la loi de Bode.
Ah oui, bien sûr.
Donc il y a un mathématicien qui a trouvé une relation et il a été refusé à l'Académie des sciences parce que dès qu'on prononce le mot de nombre d'or, vous êtes refusé. Parce que ça plaît trop au public. Donc le nombre d'or, il n'est pas bien vu. Et alors j'ai démontré que ce fameux 137 sur 60 est directement lié au nombre d'or en faisant intervenir la musique chinoise de l'époque des Han à 60 notes. C'est la combinaison de la musique occidentale à 12 notes et de la musique chinoise primitive à 5 notes, qui ce sont les 5 touches noires du piano. Et 12 fois 5, 60. Donc il y a une liaison directe.
D'accord, donc ça c'est...
Et attendez, j'ai pas fini.
Oui.
C'est que 137 sur 60, on le retrouve dans l'estimation de pi de Ptolémée. Il a donné une excellente approximation de pi que je recommande à tous les auditeurs. C'est 377 sur 120. Vous vérifierez que c'est directement lié au 137 sur 60.
Et ça, donc, oui, Ptolémée en avait conscience. Donc il avait justement le goût des nombres entiers et... Est-ce qu'on peut dire que justement c'est grâce au nombre entier que le cosmos peut se réhumaniser ?
Oui, disons que le...
Parce que l'homme n'est à l'aise que dans les nombres entiers.
Oui, bien sûr.
Ces nombres avec des décimales à l'infini, on est...
Oui, bien sûr. Alors, l'une des hypothèses de notre article là, avec les collègues, là, c'est que le grand cosmos est un calculateur parfait.
Alors, notre émission est en train de se terminer. Je remercie les auditeurs qui ont eu la patience d'écouter des choses parfois peut-être un peu difficiles à suivre. Mais je pense que la patience est parfois récompensée. Voilà. Je profite pour signaler le colloque du CEP qui aura lieu les 28 et 29 septembre à Orsay. Le thème de ce colloque, c'est la chrétienté passé, présent et à venir. Donc on va évidemment partir de l'histoire. On va commencer par les pères de l'Église avec une conférence de Jacques Baudot. Il y aura les leçons d'une crise annoncée par Maxence Eckart. Alors nous aurons un Russe, alors pas Kotov là, mais Alexandre Lalomov, qui est le responsable des minerais marins à l'Académie des sciences de Russie et qui viendra nous parler sur le thème science et religion en Russie au XXIe siècle. Et qui parlera également, puisque c'est des expériences de Guy Berthaud, puisqu'il il s'en occupe. Annie Laurent fera une conférence sur les chrétiens d'Orient. Alors justement, on a parlé tout à l'heure du fait que le christianisme n'était pas occidental. Eh bien, c'est parce qu'il y a des chrétiens en Orient. Il y aura Stéphanie Bignon. Alors Stéphanie Bignon anime une association qui s'appelle Terre et Famille, qui parlera de l'inéluctable retour à la Terre et ses vertus. Le fait qu'évidemment dans la société moderne, bétonnée et urbanisée, peut-être qu'il y a des manques et que le retour à la Terre a ça. Alors ça c'est pour le samedi, et le dimanche on aura une conférence de Jean de Pontcharrat, qui était un ancien physicien au CEA. Donc peut-être qu'il a eu des cours de laser de Francis Franchèse sur l'Église et la science. Il parlera justement de l'Académie pontificale des sciences. Benoît Naïs, le retour du sacré, condition d'un salut. Et puis nous terminerons par une conférence de Jean Stigler, l'avenir du monde d'après les prophéties. Parce qu'effectivement, la chrétienté, c'est une réalité historique, mais c'est aussi quelque chose qui... évidemment, qui va continuer et qui nous donne le sens de l'avenir. Donc, je remercie tous les auditeurs, je remercie nos intervenants d'être venus parmi nous à ce micro, et je donne rendez-vous à tous donc dans 4 semaines pour une émission qui cette fois aura pour thème principal le linceul de Turin, parce qu'il y a eu, vous savez qu'en 1988, il y a eu une datation radiocarbone sur le linceul de Turin, et à ce moment-là, il a été impossible d'obtenir les mesures brutes de cette datation, parce qu'ils avaient faussé le calcul statistique. Et un jeune Corse a réussi, comme 30 ans sont écoulés, par une procédure internationale, à obtenir juridiquement des informations des laboratoires. Et il viendra nous parler, là ça sera un scoop pour cette émission de Radio Courtoisie, il nous viendra nous parler donc de ce qu'on peut penser de cette opération du radiocarbone du linceul de Turin. Donc rendez-vous à tous dans 4 semaines.
Vous venez d'entendre le libre journal de Lumière de l'Espérance, dirigé par Dominique Tassot, assisté d'Apolline, diffusé en direct sur Radio Courtoisie dimanche 25 août 2019 de midi à 13h30 et réalisé par Adrien. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75-016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.